commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Bonjour, Accent d'Europe se tourne vers la Grèce aujourd'hui. Athènes, sa capitale, étouffe sous le poids des formes contemporaines du tourisme, comme Paris, comme Barcelone, Lisbonne ou Rome. L'immense métropole de l'Attique fait face à ce qu'on appelle la gentrification de son centre-ville. La gentrification, c'est la transformation d'un lieu de vie populaire en quartier plus riche, plus exclusif et centré surtout sur l'agrément des visiteurs. À Athènes, plusieurs facteurs concourent à favoriser ce phénomène nouveau dans cette ville immense où se trouvent des vestiges de l'Antiquité uniques et mondialement célèbres. D'abord les investissements immobiliers de riches étrangers, l'hypertourisme aussi autour de l'acropole, de l'agora, des temples disséminés sur les collines du centre-ville et la tendance à la hausse des prix qui prévaut partout en Europe. Alors après une décennie de crise économique qui a durablement appauvri la population grecque, certains Athéniens commencent à se mobiliser. Ils protestent entre autres contre ce qu'ils appellent la touristification de leur capitale. C'est un reportage à Athènes de Joël Bronner.
Afin de théâtraliser face aux passants le problème du logement dans le centre d'Athènes, de jeunes gens sont grimés en petites vieilles, assis en tailleur, au milieu de la rue, devant un amoncellement de cartons. La mise en scène suggère qu'un déménagement est en cours.
Nous sommes de vieilles dames. Nous sommes descendues dans la rue parce que, ma foi, nous sommes chassées de nos maisons. Dorénavant, voyez-vous, notre maison, c'est ici. Et nous sommes venus entourer d'autres personnes pour protester, souligner que ce ne sont pas des manières de faire. Qui va se soucier des problèmes de logement autrement ?
Non sans ironie, les deux fausses petites vieilles indignées proposent à présent de transformer le Parthénon lui-même en Airbnb. Les vestiges de ce temple antique, symbole du tourisme en Grèce, trônent en effet au sommet de l'acropole, à quelques centaines de mètres de là. Au-delà de cette touche d'humour, les dizaines de militants présents ici dénoncent en particulier la hausse des prix de l'immobilier dans le centre d'Athènes qu'ils jugent démesurée, près de 15% sur un an, rien qu'en 2023. Dimitris Petas est à l'origine de ce rassemblement.
Il y a plusieurs raisons qui expliquent la cherté actuelle des loyers et des prix de l'immobilier. D'abord, pour le contexte général, la Grèce n'a jamais eu de politique de logement public. Les logements sociaux n'existent donc tout simplement pas ici. C'est le marché qui est le seul fournisseur de logements. Dans le même temps, de nombreuses zones du centre d'Athènes subissent de fortes pressions dues à l'impact d'Airbnb, donc des locations à court terme. Pour les Athéniens, cela diminue le nombre de logements avec des baux à long terme et cela fait monter les prix. Cela s'ajoute à la politique des visas dorés qui a renforcé la commercialisation des logements. Voilà en deux mots ce qui nous a conduit à la situation actuelle.
C'est au mois de février qu'est né ce tout jeune mouvement de protestation baptisé « Les quartiers pour le droit au logement ». Ce mouvement, encore un peu confidentiel, est parti des quartiers du centre d'Athènes, particulièrement exposés au déferlement de touristes dans la capitale. Un tourisme dont la présence la plus massive se situe dans un triangle d'or entre les stations de métro Monastiraki, Acropolis et Tissio.
Si on a décidé de manifester ici à Tissio, c'est parce qu'il s'agit d'un lieu symbolique du tourisme à Athènes. Nous avons le sentiment que la touristification du centre de la capitale est un processus à l'œuvre depuis plus de 5 ans. Concrètement, nous avons des quartiers résidentiels, comme à Exarchéia, comme Koukaki, comme Neokosmos, comme Petralona, qui se transforment progressivement en zone hôtelière. Cela se traduit aussi dans la façon dont les commerces de secteur se transforment en lieux de divertissement, avec notamment de plus en plus de restaurants et des bars qui empiètent sur les trottoirs. Au final, c'est toute l'identité de ces quartiers qui s'en trouve profondément modifiée.
Venu apporter son soutien aux manifestants, Kostis Karpodilis est le porte-parole de Nea Aristeira, Nouvelle Gauche, un tout jeune parti parlementaire issu d'une scission avec Syriza.
Ces dernières années, les questions de résidence, de logement sont devenues l'un des problèmes centraux de la société grecque, en particulier pour la jeunesse. Le problème est double, la hausse des loyers de la part des propriétaires et la hausse des prix de l'immobilier qui rendent difficile, voire presque prohibitif, l'achat d'un logement. Chercher un logement est donc devenu un problème en soi. Beaucoup de gens en Grèce, en particulier les jeunes donc, sont contraints de continuer à vivre avec avec leurs parents, précisément parce qu'ils n'ont pas les moyens de louer leur propre logement. Voilà quel est le contexte général.
En parallèle des excès liés à Airbnb, les manifestants pointent aussi tous du doigt la politique grecque des visas dorés, accusés de faire flamber le prix du mètre carré. Ces visas dits dorés offrent aux étrangers un droit de résidence européen contre 250 000 euros d'investissement dans l'immobilier. Ils ont été mis en place en 2013 au cœur de la crise économique grecque pour relancer le secteur. Le succès est tel que le palier a été rehaussé en Grèce, passant à 500 000 euros l'été dernier.
Pour nous, la politique du visa doré doit tout simplement être abolie. Nous considérons aussi que des limites doivent être imposées au développement d'Airbnb pour stopper l'explosion du nombre de logements proposés sur cette plateforme. De son côté, l'État et la mairie devraient prendre l'initiative de rénover certains logements à l'abandon. L'idée serait de pouvoir louer ou vendre les nombreuses habitations qui restent inoccupées pour le moment à Athènes.
Selon les chiffres officiels, il y aurait en effet paradoxalement plus de 130 000 logements vacants au cœur de la capitale grecque, faute souvent de moyens de la part des propriétaires pour y effectuer les rénovations nécessaires.
Autre pays, mais même problème, en Autriche, la capitale Vienne, qui concentre un quart de la population totale du pays, va bientôt compter 2 millions d'habitants. Et la belle métropole viennoise baignée par le Danube continue d'attirer de nouvelles catégories de population, et donc là aussi de touristes, jusqu'à 7 millions d'étrangers qui viennent déambuler dans ces rues tous les ans, pour être précis. La conséquence directe est bien connue de cet attrait pour Vienne, et le fait qu'il devient de plus en plus difficile pour les Viennois de se loger, puisque les appartements disponibles se font plus rares et leurs loyers augmentent, alors qu'ils étaient plutôt abordables jusque-là pour une capitale d'Europe occidentale. Et dans une ville touristique aussi célèbre, la municipalité viennoise a donc décidé de sévir la location d'appartements via des plateformes de courte durée comme Airbnb, déjà largement interdite dans le centre-ville depuis 2018, a été restreinte encore davantage. Les éclaircissements de notre correspondante à Vienne, Céline Béal.
Vienne, aujourd'hui et pour toujours. C'est le slogan de l'Office de tourisme de la capitale autrichienne. Une image de ville-musée préservée dans le temps. Oui, mais pour qui ? Les touristes ou les habitants ? Le gouvernement de la ville, une coalition de la gauche et des écologistes, a tranché. En 2018, il a fortement restreint les possibilités de louer des meublés via les plateformes en ligne du type Airbnb ou Booking. La location à la nuit est donc interdite au-delà d'un seuil de 90 jours par an dans de larges zones résidentielles du centre-ville. En dessous des 90 jours, les Viennois peuvent continuer d'arrondir leur fin de mois en louant ou sous-louant leur domicile principal lorsqu'ils partent en vacances. Ce qui est maintenant interdit dans les zones résidentielles, aux grandes dames de certains propriétaires qui avaient investi dans un bien immobilier en espérant de larges profits, c'est de consacrer un logement uniquement à une location de type Airbnb. La mesure ne vaut que pour les particuliers, pas pour les professionnels du secteur hôtelier. Alors certes, ce règlement municipal est difficile à faire respecter, mais la mairie a quand même décidé de passer à l'étape suivante. À compter du 1er juillet prochain, l'interdiction sera étendue à l'ensemble du territoire de la ville. Dans le quotidien conservateur, dit Presse, une juriste qualifie la mesure d'atteinte aux droits de propriété et met en doute sa constitutionnalité. Cependant, une lueur d'espoir pour les Viennois concernés. Le règlement prévoit des autorisations exceptionnelles, mais les conditions sont restrictives. La juriste pronostique que l'administration de sa cité va crouler sous les demandes. Pas sûr qu'elles seront toutes traitées avant le 1er juillet. À bon entendeur, les vacanciers.
C'est devenu la hantise en Europe, lutter contre les agents de l'étranger, prévenir les ingérences étrangères. On parle en tremblant des interférences russes, chinoises et parfois américaines dans les processus démocratiques. Parfois, on s'inquiète aussi pour sa souveraineté et les campagnes de déstabilisation de puissances pas toujours bienveillantes. L'Union européenne, elle, s'inquiète particulièrement pour les élections des députés du Parlement européen au mois de juin. Quelles sont ces menaces réelles et comment s'en protège-t-on aujourd'hui sur le continent? C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Vous avez sûrement vu passer cette vidéo de baston général au Parlement géorgien. C'était lundi dernier, alors qu'une loi sur les agents de l'étranger devait être débattue. Elle a ensuite été adoptée en première lecture. Avec ce texte, les organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger doivent s'enregistrer comme « organisations poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère ». Son modèle, c'est la loi russe. Législation bien utile au Kremlin pour censurer les médias indépendants, les ONG et la société civile au prétexte de se protéger. Mais si Moscou veut se protéger, elle ne se prive pas d'intervenir à l'extérieur pour perturber la démocratie européenne. Il y a quelques semaines, la République tchèque a ouvert une enquête sur le site pro-russe Voice of Europe. Selon Prague, la Russie a directement payé des politiciens pour qu'ils relaient son discours, notamment le député allemand Petr Bitron, candidat aux européennes pour l'extrême droite allemande. Le coprésident de l'AFD protège son candidat comme il peut.
La présomption d'innocence s'applique également à Petr Bitron. Il s'agit de soupçons, d'allégations. Nous ne disposons actuellement d'aucune preuve.
C'est vrai que Prague ne peut pas fournir pour le moment les enregistrements qui, selon elle, accablent Bitron. L'enquête suit son cours. Mais ça la fout mal. C'est ce que dit en d'autres termes l'eurodéputé espagnol Iraxe García Pérez.
Nous ne pouvons pas accepter ce coup porté à la crédibilité du Parlement européen juste avant des élections déterminantes pour l'avenir de notre projet commun, pour le soutien à l'Ukraine dans sa lutte pour survivre face à la tyrannie du régime de Poutine.
De son côté, en quelques semaines, la Pologne a affirmé avoir démantelé un réseau de propagande du Kremlin, puis arrêté un homme soupçonné d'être un espion russe impliqué dans un complot pour assassiner le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Jeudi dernier, l'Allemagne annonçait elle aussi l'arrestation de deux espions pro-russes. Les pays européens semblent donc prendre la mesure de la menace. L'Assemblée nationale française a ainsi adopté une loi contre les ingérences étrangères en mars. C'est Sacha Houlier qui la porte. Vous le connaissez ?
Et la parole est à Monsieur Sacha Houlier, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République, et par ailleurs président pour 10 minutes.
C'est ça, c'est un député macroniste. On l'écoute.
Compte en commun, selon vous, les étoiles de David peintes sur les murs de la capitale, les punaises de lit, la manipulation de l'information, la déstabilisation des processus électoraux, les cyberattaques, la prédation de nos entreprises, la surveillance de nos chercheurs.
Vous connaissez la réponse, tout ça, ce sont des ingérences étrangères. Le député cite la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, mais il insiste bien sur la Russie. Le texte prévoit notamment la création d'un registre des représentants d'intérêts étrangers. Le Royaume-Uni a aussi ce genre de liste. Et l'autorisation pour les services de renseignement d'utiliser des algorithmes pour détecter des activités suspectes. Certains politiques sont très dubitatifs sur l'efficacité des moyens mis en œuvre pour un enjeu aussi considérable. L'équilibre à trouver est compliqué, entre la protection contre les ingérences et le bâillonnement des voix divergentes. Il y a un an, en Pologne, le gouvernement conservateur au pouvoir a d'ailleurs voulu créer une commission d'enquête sur l'influence russe. Bon, où est-elle le problème ? Euronews le raconte.
Surnommée la Lex Tusk, la loi de création de la commission d'enquête viserait donc particulièrement l'opposant centriste de la plateforme civique Donald Tusk, candidat au poste de Premier ministre aux législatives d'automne prochain.
Car le parti Droit et Justice au pouvoir, le PiS, présentait Tusk comme l'homme du Kremlin. Il a finalement gagné les élections après des manifestations importantes qui ont forcé le PiS à amender sa loi. Mais il en a fallu de peu pour qu'il soit inéligible au nom de sa prétendue proximité avec Moscou.
En Irlande, une nouvelle nuisance pour l'environnement vient cette fois du monde pourtant réputé aseptisé de la haute technologie. Dans le pays qui est le havre européen des géants du numérique, les GAFAM comme on dit, les data centers prolifèrent. et ils commencent à exaspérer les responsables publics. Ces énormes centres de données regroupant serveurs, disques durs et autres routeurs si absolument nécessaires au fonctionnement des entreprises liées à Internet, comme Google, Amazon, Meta ou Microsoft, dévorent en effet énormément d'énergie, comme le montre le reportage à Dublin de notre correspondante Clémence Pénard.
Eh bien ici, nous sommes devant plusieurs data centers. Ça ressemble à des bâtiments industriels, des entrepôts.
Dylan Murphy, la trentaine, est l'un des membres de Not Here, Not Anywhere, une association qui fait campagne pour un avenir sans énergie fossile en Irlande. Il nous a donné rendez-vous à quelques kilomètres à peine de Dublin. Pas un chat ici, la zone industrielle est toute grise et bétonnée. D'énormes clôtures et des caméras dissuadent n'importe qui de se balader dans les environs.
Nous ne sommes pas nécessairement contre les data centers, je veux être bien clair là-dessus. Nous ne sommes pas des anti-technologies, nous savons qu'il s'agit d'infrastructures nécessaires, mais il faut que ce soit régulé. Ce sont des quantités folles d'énergie qui sont en jeu, et il n'y a pas de plafond sur la consommation électrique dans ces centres de données. Donc jusqu'ici c'est clair, on leur a déroulé le tapis rouge.
Dylan fait référence aux Luddites, ce mouvement d'ouvriers anglais du début du 19e siècle qui détruisait des machines pour protester contre l'industrialisation. Not Here, Not Anywhere n'en est donc pas là, mais il dénonce la prolifération de ces centres de données. Il y a une trentaine d'années, l'Irlande a en effet lié son destin aux GAFAM, et depuis une décennie, les annonces de nouveaux chantiers de data centers s'enchaînent à un rythme effréné. Actuellement, il y a 86 data centers dans le pays, de quoi offrir à la République irlandaise le titre de premier hébergeur européen de ces centres de données. Tous, excepté 5 d'entre eux, se trouvent dans la région de Dublin, ce qui ponctionne une large partie du réseau électrique du comté. Barry McMullen est professeur à l'école de génie électronique à l'université de Dublin.
C'est beaucoup par rapport à la taille de l'Irlande et c'est disproportionné par rapport à la population. Ils dépendent encore beaucoup des combustibles fossiles. Les émissions de dioxyde de carbone directement associées à la consommation d'énergie des data centers sont très importantes. On ne peut pas continuer à s'aveugler sur le sujet. Honnêtement, aujourd'hui, il y a un conflit entre la poursuite d'objectifs économiques et le respect de nos obligations environnementales mondiales.
La construction de ces data centers modifie aussi évidemment le paysage et aurait donc un impact direct sur la faune et la flore. Ensuite, il faut d'énormes quantités d'eau pour les refroidir afin d'éviter la surchauffe. Enfin, et surtout, leur consommation en énergie est gigantesque, on l'a dit, ce qui pourrait même entraîner des pannes d'électricité en hiver, a prévenu le régulateur irlandais de l'énergie. Certains politiques ont donc demandé au Parlement de mettre en place un moratoire, comme Breed Smith du Parti d'extrême gauche, People Before Profit.
Dans la plupart des pays européens, les data centers ne sont pas autorisés à consommer plus de 4 à 5% de la production du réseau électrique national. En Irlande, on est à 18%. À Singapour, qui a une économie assez semblable à la nôtre, lorsque cette consommation a atteint 11%, ils se sont arrêtés là. Ils ont dit, maintenant c'est trop, on ne peut pas aller plus loin, donc plus de nouveaux centres de données.
Si le gouvernement irlandais réfute l'idée d'un moratoire, il mise tout de même sur une dispersion des data centers pour soulager la pression sur le réseau électrique de Dublin et ses environs. Dans les prochaines années, les futures constructions devraient donc plutôt voir le jour sur la côte ouest du pays. Eamon Ryan, chef du Parti des Verts et ministre de l'Environnement, voudrait également qu'à l'avenir, seuls les centres de données, alimentés par des énergies décarbonées, soient autorisés. Il a aussitôt été accusé de compromettre la prospérité économique du pays.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rfi.fr ou sur l'appli Pure Radio ou encore sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituels. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la vie des Européens. Mais restez avec nous, bien sûr. L'information continue sur RFI.